En route pour la deuxième partie des midis. Tout à l'heure, je recevrai le romancier Timothée de Fombelle. Mais tout de suite, place à Marie Sorbier pour le Point Culture. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons parler aujourd'hui d'anthropologie sur le terrain et ce partout dans le monde. Des femmes et des hommes observent les changements de civilisation en cours et les conséquences sur les populations. Sur l'île de Hong Kong, par exemple, il n'y a plus assez de terre pour enterrer les morts qui se retrouvent donc emmerdés. Alors, pourquoi pas, me direz-vous, mais ce changement de pratique entraîne toute une série de changements dans la société dont les artistes se font les premiers témoins. Marie Lécuyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue et vous venez de faire paraître aux éditions de L'Ogre un essai qui s'intitule « Conspirer avec les morts, enquête sur les trajectoires de vie post-mortem à Hong Kong » et c'est dans lequel vous expliquez que progressivement, à cause de la pression urbanistique, l'enterrement disparaît au profit de l'emmerdement au large de l'île de Hong Kong. Alors moi j'ai eu l'impression en vous lisant que c'était vraiment un changement anthropologique majeur. Je me souviens qu'à l'école on nous disait qu'un des premiers gestes qui prouvait notre humanité c'était qu'on enterrait les morts. Est-ce que vous avez constaté pendant votre enquête que cette modification entraînait déjà des conséquences sur les vivants?
Oui, alors il se trouve que Hong Kong est un archipel des plus densément peuplés. En fait, la densité urbaine atteint parfois jusqu'à 150 000 personnes par kilomètre carré dans certaines régions. Et pour pallier à cette saturation urbaine, le gouvernement a mis en place depuis environ 2007 des nouveaux dispositifs du deuil. Donc il a mis en place des zones de dispersion des cendres auxquelles on peut avoir accès par bateau, ainsi que des jardins du souvenir au sein des on peut disperser les cendres des morts. Et en parallèle de ça, donc une plateforme numérique avec des avatars numériques pour les morts. Alors ces pratiques en fait d'emmerdement ou de dispersion des cendres en mer, elles sont pas forcément si problématiques dans d'autres régions du monde. En France, il me semble que ça se pratique beaucoup. Mais en Chine du Sud et à Hong Kong, où j'ai fait mon terrain, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça va à l'encontre de pratiques plus conventionnelles, en fait ancestrales, d'enterrement des morts. En Chine du Sud et à Hong Kong, la pratique cantonaise veut qu'on enterre deux fois les morts, en fait. Il y a d'abord un premier enterrement de 7 ans, et à la suite de ces 7 ans, en fait, les restes sont exhumés pour être mis ensuite dans une urne, puis réenterrés par la suite.
Oui, ce qui devient impossible, bien sûr, avec l'emmerdement.
C'est ça. Et donc l'emmerdement pose problème pour différentes raisons. La raison principale étant que ça crée, pour la plupart des gens que j'ai rencontrés, des formes de spectralité, des formes de fantômes. Alors il faut savoir que sur 50 000 morts à l'année, il y a moins de 900 personnes finalement dont les cendres vont être finalement déversées en mer. Et c'est une question que se pose le gouvernement, à savoir pourquoi les gens en fait ne se décident pas à déverser les cendres en mer, qu'est-ce qui pose problème. Et donc le gouvernement a mis en place une campagne de communication de manière à réformer les esprits, de manière à ce que cette idée que les morts que l'on déverse en mer deviennent des fantômes.
Alors c'est intéressant ce que vous dites justement sur les fantômes. Le fantôme c'est quand même une figure récurrente, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma ou dans l'art. Et j'ai été marquée dans votre récit de ce que vous faites aux morts. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que les morts ont une place active, en fait ils sont acteurs du présent.
Tout à fait, surtout à Hong Kong, en fait, les morts ne meurent pas vraiment. C'est-à-dire que dans la maison funéraire dans laquelle j'ai fait du terrain, on prend un soin particulier à nourrir les morts, à leur parler, on leur offre des offrandes. Enfin, il y a un soin particulier adressé aux morts et c'est une manière de les choyer pour qu'ils puissent poursuivre leur vie dans un monde alternatif, pour qu'ils puissent se réincarner. Et c'est aussi une manière de faire très attention, parce que si les morts ne sont pas soignés comme il faut, ils courent le risque en fait de ne pas devenir ancêtres et de rester à un statut intermédiaire qui est le statut de fantôme, qui est un statut de mort errante en fait.
Alors vous décrivez avoir senti, je vous cite, la vitalité des morts à l'œuvre. Alors je le prononce pas bien parce que vous avez choisi d'écrire ce mot mort en écriture inclusive, donc mort.es pendant tout le livre. Mais justement cette vitalité des morts que vous avez vous senti lors de vos visites nocturnes, est-ce que ça a transformé votre approche en tant qu'anthropologue ?
En tant qu'anthropologue, je sais pas, mais en tant que personne certainement. Et puis
est-ce que vous avez réussi à l'écrire, par exemple, cette rencontre sensible ? Est-ce que c'était important pour vous de nous la communiquer ?
Oui, en fait, je ne voyais pas comment faire autrement. Je ne vois pas comment parler des morts d'une manière objective, cela n'a aucun sens, et parler de leur présence et de la manière dont ils nous touchent. Il fallait trouver quelque chose, un moyen dans l'écriture pour que ce toucher se fasse sentir. Alors, je ne saurais pas comment le qualifier parce qu'il y a autant d'ethnographie qu'il y a d'ethnographes. Mais c'était important pour moi d'élaborer une écriture qui soit la plus immersive possible et de donner la parole le plus possible en fait aux interlocuteurs que j'ai eus sur le terrain. Et donc il y a un maximum de dialogues et de paroles rapportées et que j'augmente après avec des concepts de manière à problématiser certaines choses que j'ai rencontrées sur le terrain.
Alors peut-être justement sur un des concepts, je voudrais revenir avec vous, Marie Lécuyer, sur le titre. Que signifie exactement « conspirer avec les morts » C'est une formulation qui est assez évocatrice. Hein. On a l'impression que les habitants de Hong Kong conspirent avec leurs défunts contre la pression urbanistique, ça veut dire ça?
Alors j'ai choisi ce terme pour plusieurs raisons. Parce que, comme on le disait juste avant, il y a une communication qui s'opère avec les morts. Les morts, en fait, font partie d'une écologie liquide, que ce soit par la tombe ou par les offrandes. Par exemple, la tombe sert à canaliser des flux chi, qui est un souffle vital. Donc, les morts font partie prenante d'une écologie qui concerne aussi les vivants, de manière à ce qu'il y ait c'est une communication qui s'opère entre vivants et morts, et de manière à ce que les morts puissent aussi prendre soin des vivants en retour. Donc je choisis conspirer pour parler de ce souffle vital qui circule entre morts et vivants, et c'est un souffle qui est aussi amorcé par les plis de papier, les offrandes de papier que l'on fait brûler et qu'on envoie aux morts, de manière à ce que ces offrandes les accompagnent dans un monde parallèle. Et puis j'ai choisi aussi conspirer parce que c'est une autre des thèses du livre que ce que j'ai trouvé pendant mon terrain, c'est que les morts en fait aussi deviennent le moyen par lequel les militants, d'anciens manifestants, poursuivent leur opposition au gouvernement d'une certaine manière. J'ai rencontré un certain nombre d'individus qui, par le biais des morts, en fait, se réapproprient un rapport au territoire et un rapport à l'histoire. Je donne l'exemple des explorateurs de HK Urbex, par exemple, qui cartographient l'espace urbain. Alors, c'est une bande de vidéastes, journalistes et gamers qui passent beaucoup de temps sur des endroits hantés, abandonnés, donc qui photographient, cartographient ces espaces. Et ils accompagnent aussi parfois des groupes plus militants qui, eux, tentent de sauver, de préserver des espaces urbains de la gentrification. Donc j'avance dans ce chapitre, par exemple, que c'est aussi un geste décolonial que ces militants, que ces explorateurs urbains posent, dans la mesure où ils troquent une virilité qui est propre à la démarche coloniale de l'explorateur contre une viralité des images, qui participe donc de cette conspiration, de la rumeur des fantômes et d'une circulation des images qui finalement permettent de réinventer un imaginaire propre à Hong Kong, qui n'est pas un imaginaire hiérarchique colonial, mais qui serait un imaginaire, et je reprends un terme de Stepanov, qui est un régime hétérarchique des images, qui est plus rhizomatique qu'unilatéral. Donc.
Bien, merci beaucoup Marie Lécuyer. Je rappelle que votre livre, j'ai dit essai, mais on pourrait dire aussi récit, hein. C'est quand même une forme hybride ce livre-là. Il s'appelle « Conspirer avec les morts, enquête sur les trajectoires de vie post-mortem à Hong Kong », vient de paraître donc aux éditions de L'Ogre. Merci beaucoup.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la comédie française doit faire face à plusieurs millions d'euros de déficit.
Oui, dans une enquête parue cette semaine, Télérama révèle les problèmes de trésorerie du français causés notamment par les travaux en cours dans la salle Richelieu. Travaux qui ont obligé la troupe à jouer hors les murs dans plusieurs salles parisiennes comme l'Odéon, le théâtre de la Porte Saint-Martin ou encore le théâtre du Rond-Point. Malgré un rythme effréné, 505 représentations prévues sur l'année 2026 contre 375 habituellement, la comédie française accuse un manque à gagner sur sa billetterie estimée à 2 millions d'euros. À cela s'ajoute le coût des travaux qui ont augmenté, ainsi qu'un déficit structurel de 2 millions d'euros lié à l'inflation. Télérama révèle néanmoins que le ministère de la Culture et Bercy auraient assuré à Clément Hervieux-Léger, le nouvel administrateur du Français, qu'il prendrait à leur charge ce déficit estimé à plus de 6 millions d'euros.
Et pour finir, Marie, un inédit de Jean-Paul Sartre paraîtra en mai prochain.
Oui, et c'est par l'intermédiaire d'un ancien élève de Jean-Paul Sartre, Maurice Mermet, que ce texte vient de refaire surface. Il s'agit d'un cours de philosophie que l'auteur dispensa à une classe de terminale du lycée Condorcet en 1942 et qui fut entièrement recopié par cet élève, alors âgé de 16 ans. Ce texte aborde des questions de morale et de logique, ainsi que des commentaires sur la pensée de certains philosophes comme Blaise Pascal ou Auguste Comte. Ces cours paraîtront en mai chez Gallimard avec pour titre cours de philosophie de terminale pris sous la dictée par son élève Maurice Mermet, lycée Condorcet 1942-1943.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. À demain. En attendant, il est 13h, vous écoutez France Culture.